La poupée russe, c'est un très bon symbole pour moi de la connaissance. Et donc, la poupée russe a toujours été pour moi un symbole de. Il y a ce qui est extérieur qu'on croit comprendre, et puis on enlève une poupée, à l'intérieur il y en a une autre, c'est plus profond, et à l'intérieur il y en a une autre aussi, qui est de plus en plus profond. Donc c'est aller pour la profondeur des choses pour pouvoir expliquer, pour pouvoir transmettre jusqu'au bout.
Matryoshka. Bonjour à tous et bienvenue sur Matryoshka. Il est très sensible aux poupées russes, aux Matryoshka, d'ailleurs sa maman était russe. Le scientifique et spécialiste du vivant Joël de Ronay nous offre cette semaine un regard prospectif sur notre avenir. Il nous aide à comprendre l'infiniment grand, comment est-ce qu'on va préparer notre vie sur cette planète d'ici 2500. Il nous aide à comprendre aussi la complexité du monde, comment ne pas se laisser polluer par l'angoisse d'un futur qui serait sombre. Et il nous aide enfin à comprendre l'infiniment petit, comment agir sur ce qu'on m'a transmis à la naissance, sur ce que je suis, sur mes propres gènes. Bref, que ce soit dans notre vie de famille, dans notre vie en société, dans notre vie sur la planète, Joël de Ronay joue son rôle de catalyseur, alors suivons-le.
C'est quoi le sens de la vie? On est là pour quoi sur la Terre? Et il y a des gens qui ont l'esprit religieux, mais ceux qui ne l'ont pas, il faut leur donner le sens de la vie. Le sens de la vie, c'est quoi tu peux servir, pourquoi tu es là? Qu'est-ce que c'est que la vie? Qu'est-ce que c'est que la planète Terre? Combien de temps va durer l'univers? Donc se poser déjà toutes ces bonnes questions, c'est de la transmission, très tôt. Cette transmission-là, elle doit les aider à se poser les bonnes questions pour les résoudre. Pas pour se poser les bonnes questions éternellement, mais pour résoudre ses propres questions qu'on se pose. Qu'est-ce que je peux faire pour être utile au monde?
Vous les avez formulées telles quelles quand vous avez élevé vos enfants?
C'est-à-dire, il y a une grande différence entre les parents qui forment les jeunes à sa propre pensée et les parents comme nous sommes qui écoutent les jeunes pour les aider à se forger leur propre pensée. Ce n'est pas du tout pareil. Pour moi, la transmission, c'est d'être un catalyseur, c'est-à-dire aider à faire que ça se passe. Ce n'est pas d'imposer ou de proposer ma vision du monde. Ça a toujours été comme ça, Stella et moi, on a toujours fonctionné de cette manière vis-à-vis des enfants et maintenant des petits-enfants.
C'est-à-dire faire que ça se passe.
Mais c'est-à-dire les aider à se révéler soi-même. Dans la conversation, il y avait dans les familles bourgeoises un vieil adage qui était « on ne parle pas à table, laissez les adultes parler entre eux ». Non, nous c'est exactement le contraire. Plutôt exprimez-vous à table, parce qu'à table on est tous ensemble, on peut se comparer. On peut se comparer enfants par rapport les uns aux autres, les plus âgés par rapport aux plus jeunes et par rapport aux parents. Parlez à table, dites ce que vous pensez, au contraire. C'est un lieu de convivial, d'expérimentation familiale.
Matryoshka. Dans tout le travail que vous avez fait sur la question de l'épigénétique, il y a aussi un rapport à la transmission qui se fait là, au-delà de soi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce chemin de transmission?
Dans l'épigénétique, il y a une transmission des caractères acquis. Pas 100%, mais 20 ou 30%, ce qui est déjà très important. C'est-à-dire que des parents qui sont addicts à des drogues, des parents tabagiques, des parents dépressifs, des parents qui ont des tares personnelles depuis longtemps, mais ils peuvent les transmettre par l'épigénétique. Parce que quand l'ovule et le spermatozoïde se rencontrent, il n'y a pas que des gènes. Ce sont des cellules avec plein d'autres choses dedans. Et c'est plein d'autres choses, entre guillemets, ce sont des facteurs qui peuvent influencer le développement de l'embryon dans un sens ou dans un autre. Donc l'épigénétique, c'est aussi la transmission des caractères acquis des parents vers les enfants et même les petits-enfants. Donc ça existe, c'est démontré. Donc la question est de savoir comment faire en sorte pour que l'épigénétique, justement, qui est l'étude de la manière dont l'expression des gènes peut être modifiée par son comportement, peut réduire ou augmenter telle qualité de tel gène ou plutôt de réduire telle mauvaise qualité de tel autre gène. Donc c'est ça l'école de l'épigénétique, c'est de comprendre comment son comportement, la méditation, le management du stress, le plaisir que l'on tire de tout ce qu'on fait, peut permettre de réveiller certains bons gènes et de réduire l'expression de certains mauvais gènes.
C'est-à-dire me libérer de ce qu'on m'a transmis.
Voilà, se libérer de la génétique typique, les transmis de mes parents, de mes grands-parents, j'y peux rien, c'est comme ça.
Alors, vous avez beaucoup pratiqué, vous pratiquez toujours beaucoup la méditation. Mmh. En quoi la méditation impacte sur mon évolution?
Alors maintenant, ça n'est plus une question théorique ou philosophique, c'est une question scientifique. On a démontré que la méditation a un impact sur le réveil de certains gènes, c'est démontré scientifiquement. Il y a même des livres qui ont été écrits là-dessus. Un des derniers livres de Mathieu Ricard, avec un neurobiologiste allemand, extrêmement intéressant. Ce livre démontre comment la méditation agit au plus profond des gènes.
Si un enfant a un parent qui est dépressif ou colérique, comment je peux agir d'une certaine façon sur mes gènes, même si, outre le travail de psy qu'on peut faire en parallèle, au niveau de mon corps.
Ce n'est pas un élément particulier, mais c'est une synergie entre une forme de nutrition équilibrée qui conduit à une responsabilisation sur son corps et sur son environnement. Deuxièmement, c'est l'art du management de ce qu'on appelle le stress, c'est-à-dire faire en sorte qu'on essaie de réduire les effets du stress qui ont des effets biologiques sur son corps. La production d'adrénaline sur l'hypothalamus produit une espèce d'accoutumance au stress. Troisièmement, c'est le plaisir. Le catéchisme et la religion nous ont appris à essayer de nous débarrasser du plaisir parce que c'était considéré comme nous entraîner vers le bas, vers l'enfer, alors que le plaisir, c'est le moteur de la vie. Le plaisir, ça produit des endorphines, ça produit de la dopamine dans le cerveau. C'est constamment des hormones qui vous maintiennent vous-même en état d'équilibre personnel. Vous êtes bien dans votre peau, comme on dit. On est bien avec soi-même et il faut rechercher le plaisir partout, de manger, de faire l'amour, le plaisir d'éduquer, le plaisir de transmettre à ses enfants, le plaisir de jouer un instrument de musique, le plaisir du voyage. Il faut stimuler partout le plaisir à chaque fois, c'est le moteur de la vie.
Donc prendre du plaisir, ce n'est pas que se faire plaisir, c'est aussi prendre soin de soi, agir sur ses cellules et même prendre son destin en main. Mais attention, ce que nous dit aussi Joël de Ronay, c'est qu'on n'est pas tout seul. C'est qu'on vit aussi avec les autres, en interaction avec les autres. C'est ce qui permet d'aller de l'avant. D'ailleurs, ensemble, on peut faire plein de choses que tout seul, on n'arrive pas à faire. C'est ça qu'il appelle l'intelligence collaborative. Et tout cela est motivé par quoi ? Eh bien, par une chose fondamentale selon lui. Il parle de la dynamique.
Matryoshka.
Dans la dynamique des comportements, dans la dynamique des interactions, dans la dynamique des relations, il y a quelque chose de très fort, plus que le mouvement. Le mouvement, c'est une constatation. La dynamique, c'est un potentiel. Et d'ailleurs, je vais même plus loin, je le pense de plus en plus, c'est que c'est dans la dynamique des interactions qu'émergent des propriétés nouvelles. En d'autres termes, les propriétés nouvelles ne sont pas construites dans chacun des éléments constitutifs, mais c'est dans la dynamique des interactions entre les éléments d'un système complexe que naissent, qu'émergent, le terme est très fort, des propriétés nouvelles. C'est de la dynamique des interactions entre les cellules qu'est née la vie, c'est de la dynamique des interactions entre les neurones que naît la conscience réfléchie, je sais que je sais, c'est cogito ergo sum de Descartes. Donc la dynamique est un mot très fort, on l'utilise pas assez.
Et si on le transpose à l'activité, et je reviens encore.
C'est beaucoup plus que ça. La dynamique, c'est plus que l'activité. L'activité, c'est un état possible d'une dynamique propre qu'on s'impose. L'activité, être actif, être mobile, être curieux, s'interroger, passer son temps à lire, à discuter avec des gens, c'est une forme d'activité. Mais c'est la dynamique qui est plus forte que l'activité. La dynamique précède.
C'est quoi, en fait ? Expliquez-moi encore.
C'est-à-dire que la dynamique, c'est un choix. Par exemple, le surfeur sur une vague, il est dans un mouvement dynamique parce que la vague bouge, parce que sa planche bouge sous la vague, et parce que le fait que sa planche et la vague bougent lui permet, lui, de voir et d'anticiper ce qui va se passer. Et moi, je dis aux gens, soyez sur une vague permanente. La vague de la vie, c'est comme une vague qui vous incite à anticiper ce qui va se passer, être en déséquilibre contrôlé, parce que la différence entre l'équilibre et le déséquilibre contrôlé, c'est que l'équilibre, on est statique, et si on est tout le temps en équilibre, on risque de tomber et c'est beaucoup plus de mal à se rattraper. Tandis que si on est en déséquilibre contrôlé, on est constamment en train de corriger son équilibre. Et je dis qu'il faut dans la vie être en déséquilibre contrôlé plutôt qu'en équilibre. Mon image du surfeur, elle va finalement très loin.
Elle va encore plus loin.
Beaucoup. La fluidité dans mes livres « Surfer la vie » par exemple, c'est un modèle de société fluide. Cette société fluide, elle est fondée sur l'image de la métaphore du surf. Et donc le surf m'a beaucoup aidé à comprendre la complexité, à comprendre les autres et à comprendre les interactions entre les gens. Comme le surfeur comprend les interactions entre lui, la nature, la vague, le vent, les rochers, la marée haute, la marée basse. Donc le surfeur vit d'interactions et il vit de la compréhension de ces interactions.
Matryoshka.
Parce qu'il y a un défi, et je glisse sur ce que vous dites là, il y a un défi, semble-t-il, majeur qui se pose aux générations qui viennent, c'est la question de la gestion des flux dans ce monde complexe. De plus en plus interactif, avec un enjeu démographique assez fort. La gestion des flux, est-ce que c'est ça aussi qui va permettre à développer ce vivre ensemble.
Aujourd'hui, le monde, la société est régie par les rapports de force. C'est comme ça que la société s'est construite, dans les rapports de force économiques, les rapports de force politiques, tel parti contre tel autre. Alors, bien sûr qu'il en faut. Le monde ne peut pas vivre sans rapport de force, mais il y a ce qu'on appelle les rapports de flux. Un rapport de flux, c'est un échange, c'est du win-win. Je donne, je reçois. Recevoir, c'est recevoir la possibilité de continuer à vivre, c'est recevoir des biens, recevoir de l'argent, recevoir un héritage, mais c'est en donnant qu'on évolue. Donc, les rapports de force, c'est très important. Sans eux, il ne faut pas être naïf, la société ne peut pas exister, évidemment. Mais les rapports de flux sont ceux qui sont l'échange, le partage, le win-win et la confiance.
Avec l'évolution des technologies, la gestion des flux, quels sont les enjeux ?
D'abord, qu'il y en a trop. C'est ce qu'on appelle le big data, le big data en anglais. Le problème de la gestion des flux, c'est qu'aujourd'hui, on est confronté à des flux quasiment insurmontables, qu'on appelle le big data. Ça s'accumule de partout. Une entreprise produit énormément de data. Nous-mêmes, chacun d'entre nous, dans ce que l'on fait, dans ce que l'on dit, dans nos métiers, on produit des données. Et le problème, c'est l'assimilation de ces données pour pouvoir aller plus loin grâce à elles, à condition qu'on arrive à les surmonter.
Matryoshka.
C'est pourquoi je pense que l'intelligence artificielle va beaucoup nous aider. C'est que la force de l'intelligence artificielle, c'est de faire des corrélations dans du big data et de rendre pertinent ce qui ne l'est pas. Aujourd'hui, ce n'est pas pertinent parce qu'on n'arrive pas à le surmonter. On peut même pas, un médecin ne peut pas lire toutes les publications scientifiques qu'il devrait lire, qui sont publiées chaque mois. Or, il sera, par contre, avec l'intelligence auxiliaire, IA, comme je l'appelle, capable de décrypter toutes ces publications que l'IA fera en quelques minutes, alors que lui, il lui faudrait des années pour les décrypter toutes. Donc voilà, je pense que la complémentarité entre l'intelligence auxiliaire et l'humain va changer l'humanité. Nous sommes à un bouleversement, un tournant de l'évolution de l'humanité dans les 50 prochaines années.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est comme si on vivait en parallèle, il y avait la gestion des flux humains, la gestion des flux de la technologie, et que demain, grâce à l'intelligence artificielle, ça permettra d'additionner nos intelligences et de passer un autre cap,
c'est ça dont vous parlez ? C'est ce que j'appelle l'intelligence augmentée. Exactement, c'est un changement d'humanité. On va, dans les 50 années qui viennent, vers un véritable bouleversement. L'humanité a changé d'abord avec la capacité de produire la vie, la capacité de produire la vie artificielle, c'est la PMA, c'est la GPA, c'est déjà un changement d'humanité. Et puis ensuite, l'humanité va commencer à changer avec la création de la vie. L'homme va produire la vie, ce qu'on appelle la biologie de synthèse. Donc j'ai beaucoup écrit là-dessus dans un livre, et l'homme créa la vie. Et donc la deux prochaines étapes, après créer la vie, ça va être la possibilité de modifier la pensée, le cerveau, avec l'intelligence auxiliaire greffée en permanence, comme certains le veulent. Le fameux industriel américain Elon Musk a créé une compagnie qui s'appelle Neuralink, dans laquelle il va avoir une puce dans le cerveau qui communique avec l'intelligence artificielle pour nous augmenter. Donc tout ça, ça va dans ce sens.
Ce changement d'humanité va forcément nous porter ailleurs. Mais ce que nous dit Joël de René, c'est pas du tout « vous allez être perdu dans ce nouveau monde ». Ce qu'il nous démontre, c'est qu'on fait déjà partie d'un tout, qu'on vit déjà en symbiose avec la ville, avec les autres, avec la nature. On fait déjà partie d'un corps commun. Alors comment imaginer demain ? Cap tout de suite vers 2500.
Matryoshka.
Aujourd'hui, on comprend la nature intuitivement. On entend des chants d'oiseaux, on sent des parfums, on se balade dans une forêt, on est impressionné par l'ombre ou les arbres qui bougent. Donc toutes ces émotions que l'on ressent depuis très longtemps. Mais on n'a pas eu vraiment une communication avec la nature comme on a une communication avec les humains. Et ça va venir. Je pense que l'intelligence artificielle, par exemple en 2500, va nous aider à décoder tous les langages de la nature. L'intelligence artificielle aide déjà à traduire d'un langage dans un autre. Je peux parler français à un japonais, il m'entend en japonais, il me parle en japonais, je l'entends dans mon smartphone en français. Donc là, c'est formidable. Mais ça va se répercuter en 2500, même avant, à tout l'écosystème. On va comprendre le langage des papillons, des abeilles, des fleurs, des orchidées. C'est-à-dire que l'écosystème va nous devenir un interlocuteur possible avec nous grâce à la traduction automatique liée à l'intelligence artificielle. Ça va être pour l'homme une répercussion inimaginable de penser qu'on peut dialoguer avec l'écosystème, avec les fleurs, avec les papillons, avec les oiseaux et les arbres, et qu'ils sont intelligents.
Matryoshka.
Et par rapport à la ville ?
La ville est un système qui est à la fois le support et la conséquence de l'organisme vivant qui l'habite. On voit la ville comme une succession d'arrondissements, de maisons, de rues. Bon, c'est ça, bien sûr. Mais la vie, elle est symbiotique avec l'organisme vivant qui l'habite. Il y a un organisme vivant global. À Paris, c'est 5 millions d'habitants dans la périphérie, 5 millions de personnes. Chacun est une cellule vivante qui constitue un organisme vivant. Donc la ville, retenez bien cette phrase, est à la fois le support et la conséquence de l'organisme vivant global qui l'habite. Et vu sous cet angle, la ville est complètement différente. Elle est comme une cellule vivante, comme un organisme vivant. Elle se nourrit, elle produit des déchets, elle a un métabolisme qui dépend. Vous savez, le métabolisme d'une ville énergétique ou de possibilité de se nourrir ou de cracher des déchets, il est à l'heure près. Ce n'est pas quelque chose qui se mesure au mois ou à l'année. La ville, elle vit en temps réel. Elle peut être coupée de l'énergie ou coupée de l'alimentation et complètement avoir une crise de vie très importante. Donc il faut comprendre la ville comme un organisme vivant dont le métabolisme est à l'heure près.
Matryoshka.
Alors ce qui est intéressant, et c'est ce sur quoi vous allez aussi nous aider à avancer dans notre réflexion, Joël Doronet, c'est comment est-ce qu'on peut agir sur l'évolution de la ville? De quoi faut-il être conscient après tout?
Jusqu'à présent, la manière d'agir, c'était l'agora des Grecs. On allait ensemble sur une place, on discutait, on se mettait ensemble et on essayait de partager nos idées sur le futur pour les mettre en œuvre ensemble. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les Internet, avec la participation citoyenne, qu'on peut appeler aussi la démocratie participative, on a une possibilité qui n'existait pas d'apporter notre voix à la construction du monde de demain, chacun ensemble, en savoir ce que les autres pensent, à savoir globalement ce que nous pensons. Donc on a des outils qui n'existaient pas du tout. Les sites web, les blogs, les réseaux sociaux. Donc l'outil est là. Or aujourd'hui, on n'a pas encore vraiment réussi à convertir ces réseaux sociaux dans un sens positif pour la construction du futur. Ce sont plutôt des outils de situation personnelle, de se mettre en avant, de poster qui on est, de poster que l'autre n'est pas, qu'on n'aime pas. Donc ce sont des outils de discrimination et de désinformation plutôt que des outils participatifs. Je pense qu'on va réaliser ça petit à petit et qu'on est d'ailleurs en train d'évoluer vers des réseaux sociaux plus coopératifs, plus créatifs, moins discriminatifs. Donc c'est une évolution lente, mais elle se fera, j'en suis sûr.
Qu'est-ce que ça a comme intérêt dans l'évolution de l'organisation de la cité?
Il y a deux mots importants, c'est confiance et respect de l'autre. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est l'anti-confiance et l'anti-respect. C'est ça aujourd'hui. C'est en train d'évoluer, les gens s'en rendent compte. Déjà, c'est un premier pas très important.
Les réseaux sociaux, vous les voyez comme quelle forme d'organisme, finalement?
C'est comme un réseau neuronal. Les neurones, ce sont des éléments qui, connectés entre eux, font marcher le cerveau. Alors aujourd'hui, on est, je l'ai dit, écrit depuis longtemps dans un cerveau planétaire, dont Internet est l'exemple. Imparfait, mais il est là. Nous sommes des neurones connectés entre nous et on crée un cerveau planétaire global. Et donc l'évolution de la pensée et des émotions se répand très très vite dans ce cerveau global. Donc les réseaux sociaux sont l'infrastructure neuronale de ce réseau planétaire.
Et à partir du moment où on le schématise tel que vous le faites, on y voit plus clair pour savoir comment agir dessus?
Oui, moi c'est ce que j'essaye de faire. Mais je ne suis pas le seul, il y a pas mal de gens qui font ça. Il y a un sociologue américain qui s'appelle Vance Ryd, que je suis de très près, qui a démontré pourquoi les pensées négatives dans les réseaux sociaux sont beaucoup plus répercutées que les pensées positives. Les choses qui font peur, on les retient parce que c'est lié à l'instinct de survie. L'instinct de survie me dit, si ceci arrive, moi je risque ma vie. Donc je vais retenir plutôt les événements qui font peur, les événements qui sont dramatiques et violents, que les événements qui sont soft, qui sont doux, qui sont, comme disait Marshall McLuhan, « good news is no news ».
Donc, dans ce cerveau planétaire, on entend bien que la ville, la nature, les autres, tout cela vit en réseau. Ok, mais pour aller encore plus loin, pour que le tableau soit totalement complet, il faut aussi vivre en symbiose avec la planète. C'est ça l'enjeu. Et pour cela, Joël Doronet nous propose deux choses. Un, de savoir comment lire la complexité du monde, il va nous l'expliquer. Et deux, d'appliquer l'épigénétique. Donc pas sur ses propres cellules cette fois, mais à la planète. On l'écoute.
Matryoshka.
La première des choses qui saute à l'esprit, qui malheureusement n'est pas du tout mise en œuvre par les politiques traditionnelles et les industriels, c'est d'avoir une vision systémique du traitement des problèmes de la planète, vision globale. Aujourd'hui, quand on parle de la transition énergétique, par exemple, les politiques ou les industriels ne vous parlent que de filières. On va favoriser la filière solaire, on va favoriser la filière éolienne, on va favoriser la filière hydroélectrique, on va favoriser la biomasse. Donc chacun d'entre eux a sa filière favorite. Mais la vraie question, c'est le mix entre toutes les filières. C'est par le mix entre la biomasse, l'énergie solaire, l'énergie du vent, l'énergie de la terre, la géothermie, combinées entre elles, distribuées par une grille intelligente, elle-même adaptable à l'offre et à la demande, que l'on va résoudre le problème de la transition énergétique. C'est ça qui manque. C'est cette vision systémique, encore une fois, qui manque chez les politiques et les industriels. Ils ne voient qu'une petite partie de la solution au problème.
Expliquez-nous.
L'analyse systématique, c'est de prendre chaque élément séparément, l'un par rapport à l'autre, et on a une collection d'éléments séparés qu'on a du mal à réintégrer. Tandis que l'analyse systémique tient compte dès le départ de l'interdépendance des facteurs et de la complémentarité. Donc à chaque fois qu'on construit dans la complexité, on peut ajouter des éléments qui font mieux comprendre le tout.
Matryoshka.
Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une émergence de collapsologues, d'effondristes. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il y a ce ressenti-là diffus comme un virus ?
Bon, d'abord, moi, je suis exactement le contraire des collapsologues. Je suis positivologue. C'est-à-dire que moi, j'essaie d'expliquer la vie en expliquant aux gens de manière positive qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ce qui ne va pas et éviter le collapse, justement. Donc, je suis exactement le contraire des collapsologues. On ne peut pas imaginer pas le contraire. Je ne suis jamais complètement négatif par rapport aux choses. J'essaie d'être complémentaire. Donc, j'envisage qu'il peut y avoir une catastrophe, mais j'essaie d'expliquer aux gens qu'est-ce qu'on peut faire de manière positive pour lutter contre et donner du sens à sa vie.
Est-ce que vous avez l'impression que c'est justement ce regard systématique qui fait qu'il y a cette émergence de collapsologues parce qu'on prend des points et qu'on ne pense pas la globalité ?
C'est très bien dit, c'est la vision systématique, analytique et linéaire qui conduit à des catastrophes, à une vision toujours amplifiée et catastrophique qui s'amplifie d'elle-même, alors que les visions, par la simplexité et la complexité, permettent dès le départ de comprendre les interdépendances et donc de relier une partie au tout. J'explique. Ce mot de simplexité, il y a la complexité qui n'est pas la complication. La complexité, c'est quelque chose qu'on peut comprendre dans le complexe, parce qu'il y a des méthodes systémiques d'interdépendance qui permettent de comprendre la complexité globalement mieux que la complication, qui est un assemblage d'éléments analytiques séparés qui sont difficiles à remettre ensemble. La simplexité, ce n'est pas la simplification, c'est la capacité d'utiliser la synthèse pour pouvoir en faire des éléments complémentaires et recomprendre par l'interdépendance la construction du tout. C'est ça la simplexité.
Mais alors ça veut dire qu'il faut avoir une foultitude de savoirs, il faut avoir accès à beaucoup de choses ?
Non.
Ou tout un chacun peut aussi l'aborder ? Comment simplement aborder la simplexité ?
La systémique, c'est ça, c'est pas une foultitude de savoirs séparés. La systémique permet de comprendre pourquoi la biologie, l'économie et l'écologie ont des éléments communs. Donc c'est pas apprendre séparément chaque discipline pour la comprendre dans le détail. C'est de comprendre de manière systémique quelles sont les interdépendances, les feedbacks, les facteurs qui font que ces disciplines qui n'ont rien de commun se ressemblent en fait, biologie, écologie, économie. C'est la systémique qui permet de voir ce qu'elles ont en commun.
Et comment vous l'expliquez ça à des enfants, par exemple ?
Je l'explique en utilisant le macroscope, c'est-à-dire qu'on a deux éléments pour comprendre la complexité. Il y a l'infiniment petit, et pour ça on utilise un microscope, et il y a l'infiniment grand. Et pour ça, on utilise un télescope pour voir très loin. Mais face à l'infiniment petit et à l'infiniment grand, il y a un infiniment complexe. Une cellule vivante, une société, l'économie, c'est infiniment complexe. Donc on n'a pas d'outils, on a un microscope et un télescope, mais on n'a pas d'outils pour appréhender l'infiniment complexe. C'est pour ça que j'ai inventé le macroscope, qui est l'outil pour comprendre la complexité.
Comment ça se présente ?
Ça se présente par une analyse systémique et pas systématique. C'est-à-dire qu'on regarde le tout, la globalité, on fait jouer les interdépendances pour comprendre l'émergence des facteurs. Parce que les facteurs nouveaux, la vie, l'économie, l'intelligence, ne naît pas des propriétés de chacun des constituants, mais elle naît de l'interaction entre les éléments composants qui font émerger, le mot est très important, émerger des propriétés nouvelles. C'est ce que j'essaie de dire depuis très longtemps dans tous mes livres.
Cette interdépendance, on est capable de la penser ou on doit avoir la machine pour nous aider à penser cette interdépendance ?
Il y a les deux. Il y a les modèles qui nous aident à la penser. Par exemple, un outil très puissant, c'est la simulation. La simulation, c'est le what if. Qu'est-ce qui se passerait si je faisais ça ? Alors aujourd'hui, l'ordinateur est un laboratoire sociologique extraordinaire parce que l'ordinateur permet de créer des éléments de simulation. Si je fais ça, qu'est-ce qui se passerait ? Et il est utilisé de plus en plus en politique, dans l'industrie, dans la prospective. Il est un outil absolument irremplaçable aujourd'hui, c'est un simulateur de complexité sociologique.
Alors face à cette infinie complexité, comment se préparer ? Comment préparer nos enfants à demain ? Sont-ils déjà câblés pour ? Eh bien, il faut croire que oui, leur cerveau ont déjà évolué.
Matryoshka.
Il est déjà démontré par la neurobiologie, par l'IRM, qui analyse la structure du cerveau, que leur cerveau a déjà changé. Et il y a des choses que l'on critique beaucoup, comme les jeux vidéo, mais les jeux vidéo permettent une forme de réflexion, une forme d'indépendance de l'esprit, qui forme à des stratégies diverses et des stratégies complexes, qui est très utile pour les jeunes et les adolescents. Donc je ne suis pas du tout opposé. La question, c'est une question de temps. Combien de temps il faut se donner à des jeux vidéo ? Pas du tout le jeu vidéo par lui-même.
Ça permet de développer quoi, finalement, chez l'enfant, par rapport aux enjeux qui se posent
demain ? Des stratégies alternatives.
C'est-à-dire ?
C'est ça, le jeu vidéo. J'ai ça. Si je veux gagner, il faudrait que je fasse ça. Mais si je fais ça, mon adversaire va faire ça. Donc ça suppose que l'on pense à l'avance comme aux échecs. Le jeu vidéo, c'est une transposition de la stratégie des échecs dans le numérique et l'interaction en temps réel beaucoup plus rapide et beaucoup plus illustrée, plus amusante pour beaucoup de gens que les échecs. Mais c'est des enfants qui jouent très bien aux échecs. Donc je crois au jeu vidéo pour former aux stratégies de la complexité. D'ailleurs, ils le font très bien.
On arrive à la fin de cet entretien, Joël de René. Je voudrais vous poser cette question. Pour vous, quel est le cap ? Qu'est-ce que vous dites à vos petits-enfants ?
Donnez du sens à votre vie par tout ce que vous voudrez. Moi, j'ai toujours été de ceux, avec ma femme, qui, quand les enfants ou les petits-enfants disent « j'aimerais faire ça », ben, tu vas le faire. J'aimerais jouer du piano, je t'achète un piano. J'aimerais faire du cheval, ok, je t'inscris à une société d'équitation. La motivation d'un jeune pour quelque chose est tellement fondamentale qu'il faut aller jusqu'au bout avec eux. Voilà, c'est ça ma devise, donnez-leur ce qu'ils veulent pour les motiver à aller encore plus loin.
Et l'un dans l'autre, au niveau de la transmission, vous, par rapport à tous les travaux que vous avez produits, tous les livres que vous avez écrits, s'il y a quelque chose auquel vous tenez particulièrement, que vous voulez absolument avoir transmis, qu'on retienne ?
Pour moi, c'est des valeurs. Alors, pour beaucoup, les valeurs sont religieuses. Moi, je pars au contraire de la religiosité de l'ensemble du monde, de toutes les religions différentes, du bouddhisme au christianisme, au judaïsme. Et je dis, l'important, c'est de retenir les valeurs que toutes ces religions ont toujours mis en avant. Respecte l'autre, tu ne tueras point, tu ne blesseras point, tu ne mentiras pas. Tous les 10 commandements, en quelque sorte, essayer de les mettre en œuvre, c'est quelque chose de ce qui peut faire une belle vie. Comme disait Pascal, le pari de Pascal, je vais essayer de pratiquer ce qu'on m'a dit dans la religion. Soit j'y arrive et je serai récompensé, soit j'y arrive pas, mais j'aurai une belle vie en essayant de le faire.
Et c'est comme ça qu'on arrive en 2500 ?
Voilà, c'est comme ça qu'on arrive en 2500. Le pari de Pascal reste toujours aussi valable que jamais.
Merci beaucoup, Joël de René. Merci.
Eh bien, nous voici prêts à aborder 2500 en toute sérénité, n'est-ce pas ? Comment est-ce que vous avez trouvé cette matrioshka ? Comment est-ce que vous avez perçu cet entretien ? Merci de nous le dire, de commenter, de partager. Si vous ne l'avez pas fait, de vous abonner à la chaîne YouTube Matrioshka et d'en parler partout sur les réseaux. Nous, on vous dit à très vite pour un prochain numéro de Matrioshka. Salut !
Matrioshka.